L'archéologie était un livre à ciel ouvert, chaque site fournissant une histoire unique que les archéologues liraient page à page. Toutefois, les archéologues commencent toujours par la fin, les niveaux récents, pour peu à peu remonter le temps et feuilleter les horizons plus anciens. On le sait, de nombreux sites archéologiques ont été détruits par l'aménagement du territoire. Des pans entiers d'histoire à tout jamais perdus. Par chance, celui dont nous allons parler a été sauvé par les archéologues, dont Rosenkolter. Bonjour.
Bonjour.
Grâce à vous, nous pourrons évoquer ce soir et en direct du Salon du Livre l'histoire de cadavres exquis, de cœurs croisés, de sarcophages anciens ou d'anthropologie moléculaire. Archéo-anthropologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, vous avez été formé à l'anthropologie de terrain, la thanatoarchéologie, et êtes intervenu au cœur de Rennes pour fouiller tout un ensemble de sépultures monastiques ou non. Rosenkolter, les sépultures, c'est votre quotidien. Dans votre jeune carrière, combien en avez-vous fouillé en tout et pour tout ?
Aujourd'hui, je pense que je suis arrivée au bout de 2000 sépultures. Voilà.
2000 sépultures de toute époque ?
De toute époque, oui. J'ai des sépultures un peu anciennes que j'ai pu fouiller dans la vallée de l'Erre.
En Mayenne.
Donc là, on a des choses peut-être proto-historiques, peut-être des choses un peu plus anciennes encore. Et puis après, surtout des cimetières médiévaux. Donc dans le nord de la France, dans l'Est, en Haute-Normandie, à Romilly-sur-Andelle avec des collègues. Et puis au couvent des Jacobins, évidemment.
Alors en Bretagne, en revanche, il y a en général très peu de squelettes. Pourquoi ?
Alors, on dit souvent que l'acidité des sols conserve mal les squelettes, ce qui doit être vrai. Et puis aussi, peut-être, l'humidité, les battements de nappes phréatiques, peut-être. Et l'aménagement du territoire fait que, depuis ces dernières années, on investit plus aussi les centres-bourgs. Et on commence à trouver quand même pas mal de cimetières dans les centres-bourgs, notamment en Ille-et-Vilaine, Baie, Vissèche. Enfin, il y a quand même pas mal de squelettes, mine de rien.
C'est pas terrible d'avoir un tel quotidien ?
Non, c'est réjouissant. Chaque squelette nous raconte une histoire et à partir de ces histoires-là, on essaye de reconstituer humblement la grande histoire. Quoi. Donc,
en tout cas, place Sainte-Anne au cœur de Rennes, le couvent des Jacobins est un très beau bâtiment, quelque peu austère. Quelle est son histoire ?
C'est un bâtiment qui est classé bâtiment historique. Donc avant ce bâtiment, on avait déjà les fondations de la ville de Condat en dessous. Et puis ce bâtiment a été fondé lui au XIVe siècle, suite aux guerres de succession de Bretagne, avec Jean de Montfort qui a gagné la bataille d'Auray, qui a réussi à tuer Charles de Blois. Et la bonne nouvelle de cette victoire, il aurait dit qu'il allait fonder un couvent à Rennes qui s'appelait du coup le couvent de Bonne Nouvelle, qui était un couvent donc de dominicains, de jacobins.
Il y a un tableau très important qui aujourd'hui n'est plus dans ce couvent, mais qui a du sens.
Oui, en fait, ce couvent, donc après cette période médiévale, au XVIIe siècle, le couvent est restructuré et agrandi. Et on a un tableau, le tableau de Bonne Nouvelle, qui est toujours visible à la basilique Saint-Aubin, juste en face. Et ce tableau a attiré de nombreuses foules sur ce couvent. Puisqu'il était censé être miraculeux, il aurait protégé la ville de Rennes de plusieurs épisodes de peste. Et il aurait même protégé le quartier Sainte-Anne du grand incendie de 1720 dans Rennes. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de pèlerins qui venaient devant ce tableau.
Une sorte de pièce miraculeuse. Toujours est-il qu'à la Révolution, tout change, bien sûr ?
Évidemment, le couvent, bah déjà, il périclite un peu au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup moins de frères dominicains à la fin de l'utilisation du couvent. Et il faut savoir qu'on ne peut plus enterrer aussi dans les églises à partir de 1766. Donc on a aussi moins de revenus pour les frères. Et il est réquisitionné en bien national en 1792. Et puis une garnison militaire prend possession des lieux et s'installe donc dans le couvent jusqu'à la propriété de Rennes Métropole qu'il récupère en les années 2000.
Pour en faire quoi ?
Eh bien aujourd'hui, ils veulent en faire un centre des congrès. Donc c'est un très très gros projet pour le centre de Rennes. Et donc, comme ce bâtiment est classé monument historique, on ne peut pas toucher au mur. Et donc les architectes ont trouvé des façons ingénieuses de pouvoir quand même intégrer un grand centre des congrès sous ce couvent. Donc il a été mis en effet sous pilotis pour construire des auditoriums sous le couvent et des salles qui pouvaient recevoir des grands spectacles, quoi.
Alors, bien sûr, vous y avez passé beaucoup de temps. Comment se présente-t-il ? C'est une sorte de grande masse quadrangulaire ?
Alors, c'est un couvent avec on a une grande église avec, donc, on devait avoir une partie commune dans l'église et puis elle était barrée par un chancel et après on avait une partie avec un chœur qui était réservée à aux personnes privilégiées, aux grands personnages. Et puis à côté, on avait une chapelle attenante, qui a fait partie de la galerie, enfin, du cloître. Donc, on a un cloître ensuite à l'intérieur de ce couvent. Et puis de part et d'autre de ce cloître, on a d'un côté la salle de le réfectoire où pouvaient manger les frères, et puis de l'autre côté la salle du chapitre qu'on a pu retrouver où les frères, eux, se réunissaient pour tenir conseil.
À l'intérieur du couvent, j'avais pu voir de nombreuses sépultures. Combien en avez-vous eu exactement ? Combien en avez-vous fouillé ?
On en a fouillé 800. Et comme notre cahier des charges devait s'arrêter à 500, 600 sépultures, on les a pas toutes prélevées en fait sur le terrain. Donc on a décidé, on a fait des choix un peu techniques et on a essayé de sélectionner le maximum des échantillons, notamment par salle. Donc parce qu'on avait plusieurs endroits où pouvaient être enterrés les gens sur ce couvent. On avait des inhumations à l'extérieur du couvent, dans la salle capitulaire du coup avec les frères dominicains, dans l'église, dans les différentes chapelles, dans les galeries du cloître. Donc on a essayé au maximum de sélectionner les populations pour garder un ensemble cohérent, viable, pour pouvoir après faire nos requêtes anthropologiques sur les populations qui habitaient, enfin qui ont été inhumées dans ce couvent.
C'est-à-dire que tout n'a pas été fouillé pour finir ?
Mais déjà, on ne pouvait pas tout fouiller puisqu'on ne pouvait pas accéder au mur du couvent pour ne pas déstabiliser le bâtiment. Donc, on avait des bernes de sécurité. Donc, c'est-à-dire que les murs étaient talutés. Donc, on ne pouvait pas accéder au pied des murs ou alors que par endroit épisodique, vraiment pour vérifier des hypothèses qu'on pouvait avoir. Et après, non, on pouvait pas tout fouiller. Il y avait vraiment, on estime que, aujourd'hui, qu'il devait y avoir 1200, 1400 sépultures, en fait, dans ce couvent.
Et il y en avait absolument partout. J'imagine qu'il y avait des endroits où il y avait de plus fortes concentrations.
Alors, il n'y en avait pas partout. Il n'y en avait pas dans le réfectoire, il n'y en avait pas dans les cuisines, il n'y en avait pas dans les dortoirs. Enfin, donc, il n'y en avait pas partout quand même. Donc, il s'est sélectionné. On a retrouvé... et il y a des densifications qui ne sont pas les mêmes, des densités, pardon. Donc, on avait dans le cœur de l'église, qui est une zone vraiment privilégiée, on voit que les concessions sont plus ou moins conservées, en fait. On a moins de recoupement dans les tombes. Par contre, dans la nef de l'église, où là, il pouvait y avoir un recrutement un peu plus large de ces individus, là, on a beaucoup, beaucoup de recoupement, et puis de vestiges secondaires, d'ossuaires qui sont déposés. Ouais.
Un recoupement, c'est une tombe qui en perfore une autre ?
Voilà, puisque nous, on ne fouille jamais l'exhaustivité, enfin un site exhaustivement, mais il faut savoir qu'avant nous, déjà, les frères dominicains ont aussi, à leur manière, fait des fouilles, puisque eux, ils ont déjà percuté des tombes pour réenterrer d'autres personnes. Et tous ces os qui se retrouvent mélangés, ce qu'on appelle des dépôts secondaires, nous, on les a quand même numérotés, comptabilisés dans le couvent des Jacobins pour essayer vraiment d'avoir un nombre minimum d'individus global à l'échelle du site et pas seulement des sépultures primaires, c'est-à-dire des sépultures qui se sont décomposées in situ et qui n'ont pas bougé depuis.
Rosane Colter, de qui s'agit-il ? Généralement des prêtres, des ecclésiastiques ?
Eh bien, après, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une étude d'archives qui a été faite par un collègue de l'INRAP. Donc, on savait un peu le statut social des différentes personnes en fonction des différentes salles qui ont été fouillées. Donc, dans la salle capitulaire, évidemment, on a beaucoup de frères dominicains, mais on pouvait aussi avoir quelques civils qui avaient la chance de pouvoir être enterrés avec eux. Et puis après, on a des espaces privilégiés avec notamment l'aristocratie parlementaire rennaise, qui est très importante au début de la période et puis même après, puisque Rennes est quand même la capitale de la Bretagne. C'est la ville la plus grosse en fait au XVIIe siècle de la province de Bretagne. Donc on a aussi toute cette aristocratie qui font le choix de se faire enterrer dans ce couvent. Et pour lesquels on a des noms, des archives.
Peut-être près du tableau magique.
Et là, c'était vraiment une des places les plus importantes en fait de ce couvent, effectivement au pied de ce tableau. Quoi.
Le recrutement, vous avez des femmes, des enfants, des hommes, un peu tout le monde.
On a
tout ça, bien sûr, avec dans un haut niveau social.
Alors, dans la nef de l'église, on peut aussi avoir des vrais mendiants, entre guillemets, puisque c'est quand même, le couvent des Jacobins est un couvent des ordres mendiants, et donc les dominicains peuvent aussi faire le choix d'inhumer ponctuellement des vrais mendiants pour attirer aussi Dieu. Et du coup, on retrouve...
Les tombes, elles sont comment ? Le recrutement ?
Ah oui, on retrouve donc on a des hommes, des femmes, des enfants, on retrouve un peu
des
tous les profils, sauf les enfants de moins de 4 ans qui sont vraiment très sous-représentés, on l'a très très peu sur le couvent.
Comment sont-ils en général ? Comment sont ces sépultures ? En pleine terre ? Sous des dallages, carrément ?
Alors, pour la période médiévale, les sépultures sont plutôt enterrées dans des linceuls, dans des fosses directement. Et puis après, pour la période moderne, donc un peu plus tardivement, les sépultures sont plutôt dans des cercueils, là aussi dans des linceuls, et puis enterrés dans des fosses. Et on a quelques sépultures particulières qui sont, enterrées dans des cercueils en plomb. Donc, qui sont vraiment des modes de dépôt réservés à la très haute aristocratie.
Alors justement, vous avez 5 cercueils en plomb. C'est quelque chose de très, très peu fréquent.
Je vous voyais venir. Oui, oui. C'est quelque chose de très peu fréquent. Mais déjà, on fouille très rarement dans les églises. Donc, c'est des inhumations qui sont réservées à des hauts dignitaires et qui sont en général dans des endroits très stratégiques. Et aujourd'hui, c'est rare d'avoir des projets d'aménagement dans des églises de façon intégrale, comme c'est le cas sur ce couvent des Jacobins. Donc, on les a pas forcément. Et puis, souvent, les révolutionnaires avaient souvenir de ces cercueils et en ont récupéré pas mal et les ont fondus pour faire ce qu'on appelait les balles patriotes. Donc, certains ont aussi disparu.
Donc, du plomb avec de la tombe d'aristocrate, c'est ça ?
Voilà, c'est formidable. On pouvait fondre aussi les cloches. Enfin, c'était aussi... Bon, en Bretagne et dans l'Ouest, ça a pu échapper un peu plus, mais c'est quand même des découvertes assez exceptionnelles.
En tout cas, ces sépultures, ces cercueils en plomb ne sont pas le propre des temps moyenâgeux ou des temps récents. On en a déjà dès l'Antiquité ?
Dès l'Antiquité, oui, on retrouve des cercueils en plomb. C'est un mode... il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, on ne peut pas transporter des corps dans des cercueils sur des longues distances non plus. Et le plomb permet de faire une tombe hermétique et de pouvoir transporter ses corps aussi sur des longues distances sans avoir de problème de putréfaction du corps. C'est aussi c'est un côté ostentatoire. Le plomb, c'est pour montrer aussi l'importance sociale de la famille, quoi.
Sur les cercueils, 5 reliquaires de plomb, de quoi s'agit-il ?
Donc, on avait des reliquaires en forme de cœur, donc des cardiotaphes, dans lesquels ont été inhumés des organes, puisque à côté de ces inhumations dans des cercueils en plomb, au XVIIe siècle notamment, on a beaucoup de... Les nobles peuvent faire le choix de se faire embaumer, à la méthode des rois qui le font déjà ici à Paris. Et donc, l'embaumement implique forcément une division du corps, une séparation des organes. Et ces organes-là, il faut aussi les gérer. Et on profite de la séparation de ces organes, de pouvoir les réenterrer dans des endroits différents. Et donc, pour les cœurs, on va faire des écrins en forme de cœur et sur lesquels on peut inscrire l'identité du défunt qui sont inhumés dans des endroits différents. Par exemple, les rois de France sont inhumés beaucoup à Saint-Denis. Et leurs cœurs, on les trouve aujourd'hui au Val-de-Grâce. C'est là qu'ils ont été inhumés. Mais d'autres, ponctuellement, ont été inhumés ailleurs. Quoi. Mais...
Charles VIII, par exemple, aussi, qui est avec dans la même chapelle que Louis XI.
Oui, tout à fait.
Oui, il y a des choses comme ça extrêmement curieuses. C'est une pratique extrêmement rare, malgré tout, liée forcément à l'élite, le sommet de l'élite sociale.
On est sur des pratiques qui concernent moins de 1%. Déjà, la noblesse, c'est moins de 3% de la population. Et là, sur la noblesse, c'est 1% de la population ou 2% qui doit faire ça. Enfin, c'est des pratiques qui sont vraiment rares, quoi.
J'aimerais bien que vous me décriviez un peu ces reliquaires... Rosenkolter, ce sont des très très belles pièces. Hein. C'est grand comment ?
Alors ça fait à peu près 30 cm, 30, 40, ouais, 30 cm, c'est quand même des grosses pièces qui peuvent avoir des anneaux de suspension ou pas. Donc on imagine que ces pièces pouvaient être visibles dans les églises ou dans d'autres endroits et sur lesquelles on a des inscriptions. Alors On connaît par exemple le reliquaire de celui d'Anne de Bretagne qui est au musée d'Aubray à Nantes, sur lesquels on avait qui était un bel écrin en or avec émaillé. Et on avait vraiment une belle étrage pour avoir savoir l'identité et puis les psaumes qui voulaient accompagner le défunt.
Anselme Colter, si je comprends bien, vous avez des cercueils ou des sarcophages en plomb et par-dessus des sortes de reliqueurs avec des cœurs. Est-ce le cœur de l'individu ?
Eh bien non, justement, c'est ce que je vous disais, on pouvait être inhumé dans différents endroits en même temps, c'est ce qu'on peut appeler des funérailles multiples. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut croiser, décider d'être inhumé dans différents espaces en même temps, ce qui peut augmenter les lieux de dévotion, les lieux de prière, ce qui augmente aussi les célébrations d'inhumation. Il faut savoir qu'on est aussi au moment de l'allongement des pompes funèbres, et donc comme ça, on a plusieurs cérémonies funéraires. Et puis comme ça, on peut aussi décider que son corps, pour des raisons politiques, doit être dans certains endroits, mais son cœur, comme Sudane de Bretagne, elle a décidé de le laisser quand même sur la Bretagne à Nantes. Et donc, on peut aussi imaginer qu'on a des échanges de cœurs entre époux.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Rosane Colter. Ces cœurs, ces cinq cœurs, ont été étudiés. Ils viennent d'être présentés dans un congrès américain de cardiologie.
Alors, c'est nos collègues radiologues qui ont présenté ces cœurs, notamment pour toute la dimension paléopathologique, puisque ces cœurs, en plus, donc les cœurs, les organes qui étaient présents dans les urnes en plomb, avaient la particularité d'avoir été embaumés. Donc on a pu étudier, nous, l'embaumement, et on étudie comme ça comment ils ont été embaumés. Mais ils avaient aussi cette particularité d'avoir des maladies anciennes. Notamment, on a retrouvé des plaques d'athérosclérose, donc des plaques de lipides qui sont dans les artères. Donc ça, ce sont on voit qu'il y avait des maladies cardiaques déjà au XVIIe siècle, ce qu'on ne doute pas. Et on a aussi des cœurs qui sont très très gros, très petits. Et c'est la première fois qu'on a des cœurs du XVIIe siècle qui sont aussi bien conservés pour faire des IRM, des scanners. On a même fait on a pu opacifier par exemple les artères coronaires, puisque tous les détails anatomiques étaient vraiment très très bien conservés.
À l'intérieur d'un sarcophage, une momie, celle de Louise de Kango. D'ailleurs, peut-on parler réellement de momie ?
Eh bien, non, on ne peut pas vraiment parler d'une momie, parce qu'une momie, c'est un cadavre où la putréfaction s'est arrêtée et on n'a pas de problème de conservation particulier, donc comme les momies qu'on peut avoir en Égypte. C'est toute la difficulté en fait de cette étude sur Louise de Kango, c'est qu'on avait un corps dont la putréfaction avait été arrêtée pendant plus de 350 ans, mais dès le moment où on a ouvert, nous, la cuve du cercueil, la putréfaction est revenue. Pour preuve, on avait tout de suite une mouche qui nous a accompagnés dans nos investigations. Et donc, il a fallu qu'on agisse très, très vite pour sauver et sauvegarder le maximum d'informations. Donc, toutes les investigations qu'on a faites sur cette pauvre dame ont été faites dans les moins de 72 heures après la découverte. Et on a laissé le corps au maximum à 4 degrés pour pouvoir conserver tous les tissus organiques.
Rosane Colter, quand vous avez soulevé la plaque de plomb, vous étiez muni de masques à gaz ?
On avait des masques à cartouches. Alors, on avait un protocole qui avait été mis en place pour les autres cuves les autres cercueils en plomb qu'on avait découverts sur le terrain aux Jacobins. Puisqu'il faut savoir que cette sépulture-là n'a été ouverte qu'un an après la fin de nos recherches archéologiques, puisqu'elle était elle était pratiquement sous un mur et on ne pouvait pas y accéder pendant les fouilles archéologiques. Donc on a attendu que les travaux débutent, que les murs soient consolidés, et donc on est arrivé après. Mais pour les premiers sarcophages, on avait mis en place un protocole de sécurité qui protégeait les agents de l'INRAP, notamment des particules de plomb et des champignons qu'il pouvait y avoir dans les cuves ou des bactéries, enfin de tout ce qui pouvait être conservé dans les cuves. Donc effectivement, on avait des masques à cartouches, des combinaisons intégrales, ce qui était un peu lourd pour l'ouverture proprement dite des cuves.
En direct du Salon du Livre, je rappelle pour nos auditeurs du Salon Noir de France Culture que mon invité est Rosane Colter, archéo-anthropologue à l'INRAP, qui évoque la sépulture de Louise de Kango, récemment découverte à Rennes. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? La dame, tout habillée ?
Alors, tout de suite, avec ma collègue Sylvie Duchesne, ce qu'on a vu, c'était le volume qui était conservé et le textile, les tissus. On ne savait pas si on avait un corps ou un squelette. Nous, on imaginait qu'on pouvait avoir un squelette encore embaumé et que c'était l'embaumement qui faisait ce volume. Mais on a vu toute la robe, toute la cape, les chaussures qui étaient extrêmement bien conservées. Avec des couleurs, la cape était plutôt noire et on avait comme un habit religieux. Ouais.
Elle tient un scapulaire de dévotion, elle a une robe de bure, des chausses en sergé, c'est ça ?
Voilà, elle est en robe de bure en laine, elle a une cape par-dessus,
elle est habillée en nonne.
Voilà, elle est habillée en religieuse. Après, c'est la difficulté de savoir de quel ordre fait son habit. Et puis après, nous, de savoir si c'était une religieuse ou pas, ou si elle a été inhumée à la mode des religieuses.
Vous avez tenté tout de suite un scanner ?
Alors, on a fait tout de suite, en très peu de temps, on a réussi, grâce à d'autres collègues, à trouver un scanner à côté de Rennes. Donc, on a scanné tout le corps entier, en fait, habillé pour savoir ce qui était conservé, en fait, sous les vêtements. Et là, on s'est aperçu que le cerveau était très bien conservé, qu'on avait des téguments, qu'on avait la moelle épinière, qu'on avait des muscles, qu'on avait des organes ou des choses à l'intérieur de la cage thoracique. Donc, tout de suite, il a fallu qu'on s'associe avec un institut médico-légal et une unité d'anthropobiologie pour nous aider, nous, à travailler sur ce corps, puisque si nous sommes anthropologues à l'INRAP, nous ne sommes pas habitués à travailler sur des cadavres.
Vous avez refait une autopsie ?
Et du coup, voilà, nous, on a fait une autopsie. Enfin, il a fallu la déshabiller, ce qui, pour les médecins légistes, pouvait prendre 2 heures. Et nous, au moins 12 ou 14 heures avec nos méthodes archéologiques, puisqu'on a vraiment travaillé sur ce corps comme on fait sur tous les sites archéologiques, donc couche par couche. Et chaque couche du vêtement a été numérotée, photographiée, dessinée au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment tout est un don d'étude. Et après, une fois qu'elle a pu être nue, on a pratiqué avec eux l'autopsie. Ouais.
Louise de Quingo aura été embaumée ?
Du coup, non, elle n'a pas été embaumée. On a fait ce qu'on a vu, c'est qu'elle avait été son cœur avait été prélevé. Donc, il y avait une cicatrice sur sa cage thoracique qui partait de la fourchette du sternum jusqu'à sur l'abdomen. Et les chirurgiens de l'époque donc avaient ouvert son thorax et avaient coupé les cartilages des côtes pour arriver par en dessous, prendre par le diaphragme et puis remonter et vider le sac péricardite. Et donc si les parties molles n'avaient pas été conservées, on aurait été incapable de savoir et de dire qu'il y avait eu une intervention sur son corps après son décès.
Est-ce que tout cela ne renseigne pas sur les pratiques de la médecine, entre guillemets, pratiquées en Bretagne au XVIIe siècle ou en France ?
Les pratiques de la médecine et puis les rites funéraires, puisqu'on imaginait, nous, que tous les cœurs qu'on pouvait retrouver, les reliquaires, les cardiotaphes, étaient forcément liés à des pratiques d'embaumement. Et en fait, on voit qu'on pouvait aussi essayer de conserver au maximum l'intégrité de son corps, mais quand même de se faire enterrer dans différents endroits. Après, ce qui est intéressant, c'est que comme ces matières organiques sont très très bien conservées, ça nous amène vers une autre archéologie, une archéologie des matières molles, et là où on peut travailler aussi sur l'état de santé de façon précise de cette dame.
On lui a arraché le cœur, on lui a prélevé, va-t-on dire. Où est ce cœur ?
Eh bien, celui-là, nous ne l'avons pas trouvé. Donc, nous imaginons peut-être qu'il a été inhumé avec son défunt mari. Puisque elle, sur sa sépulture, on avait retrouvé donc le cœur de son mari, Toussaint de Perrien, chevalier de Bréfeillac, et on savait que son corps à lui, parce que c'est écrit sur son urne, a été enterré à Carhaix, donc à plus de 200 km de Rennes. Et donc on imagine qu'elle a été enterrée avec le cœur de son mari, mais qu'elle a peut-être fait le don de son cœur pour la sépulture de son mari.
Alors que sait-on de Louise de Quingo, Rosane Colter ?
Eh bien,
peu de choses encore. Elle a une page Wikipédia.
Oui, maintenant.
Je suis allé voir.
Alors maintenant, elle a un site internet, c'est tout, c'est magnifique. Non, nous, on a peu de sources directes. On a réussi à retrouver quelques données quand même. On sait qu'elle fait partie d'une très grande famille de Rennes. Son arrière-grand-père a été un des premiers présidents du Parlement de Bretagne à l'époque où c'était un duché, où c'était avant que ce soit rattaché à la France. Donc c'est vraiment une très très grande famille, les QC de Bourgneuf. Et puis on sait qu'elle et son mari sont décédés sans enfants. Après, on ne sait pas si elle est rentrée dans les ordres puisque son mari est décédé 7 ans avant elle. On ne sait pas si elle a fait le choix de rentrer dans les ordres pour la fin de sa vie ou si elle a, juste pris l'habit pour aussi, comme les tierces personnes. Pour son inhumation.
Une étude paléogénétique a été entreprise, notamment par Éric Crubezy de l'Université de Toulouse. Pourquoi cette étude ?
L'étude paléogénétique, c'est aussi, comme c'est très très bien conservé, en fait, toutes les matières organiques, on a pu voir qu'il y avait une adhérence au niveau des poumons, donc elle souffrait d'une maladie pulmonaire. Et donc on recherche, nous, quelle maladie pulmonaire il peut s'agir. Peut-être que c'est la tuberculose. Et par exemple, si on trouve le gène de la maladie de la signature de la tuberculose, on pourra avoir un gène avant aussi la révolution industrielle, avant les antibiotiques, donc avoir un génome.
Un paléogène.
Voilà, un paléogénome.
Et l'ADN de Louise de Kango a été réalisé ?
Alors aujourd'hui, l'ADN a été extrait donc de différents endroits, on a de ses dents, de son poumon, voilà. Et donc on a toute la bibliothèque de gènes en fait maintenant qui est à étudier, donc ce sont des masses de données énormes. Hein, donc maintenant il faut pouvoir matcher pour voir si on a des pathogènes qui sortent.
Rosane Colter, quand on travaille sur un tel individu, est-ce qu'un lien se crée avec son objet d'étude ?
Forcément, ça prend un peu la tête, comme on dirait. Oui, mais après, on a essayé au maximum de traiter cette sépulture comme on aurait traité, comme on a traité d'ailleurs toutes les autres sépultures du couvent des Jacobins, puisque pour nous, chaque sépulture est vraiment importante. Donc, on essaye de garder un côté pragmatique et d'étudier chaque sépulture, puisque chaque sépulture, c'est un objet d'étude pour nous. C'est pas voilà, on essaie de dédramatiser aussi ce qu'on fait quoi.
En 2015, Louise de Kango est réinhumée. Comment ça s'est passé tout ça ? Vous avez retrouvé les descendants ?
Alors, c'est pas nous qui avons retrouvé les descendants, c'est eux qui sont venus à nous en fait suite à une conférence de presse où eux forcément ils connaissent leur arbre généalogique, donc nous c'est vraiment pas notre métier de faire de rechercher des survivants. D'autant que nous, on propose juste une identification. Et donc, les descendants sont revenus à nous et on souhaitait, si on était d'accord, réinhumer, enfin, en tout cas, récupérer le corps. Or, nous, on avait fini toutes nos investigations scientifiques. On avait fait plusieurs scanners, puisqu'on l'a rescanné une fois qu'on était sur Toulouse. On l'a fait une autopsie, on avait fait le maximum de prélèvements. Donc, du coup, on ne s'est pas opposé à ce qu'elle puisse récupérer ce corps.
La famille a aujourd'hui réinhumé Louise de Kango. Où ça ?
Aujourd'hui, elle a été réinhumée dans le cimetière municipal de Tonquédec, donc dans les Côtes d'Armor, là où justement ses descendants, après, eux, ont acquis le château de Tonquédec. Donc c'est la grande famille des Tonquédec qui a décidé de ce lieu de dernier repos, pour l'instant.
Rosane Colter, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Élise Le, sonorisation Stéphane Beaufils avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre à la transe et aux chamans. Le chamanisme ancien serait-il parmi nous ?